en Ile-de-France.
Écoutez IDFM
sur 98FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio IDFM, sur 4 ou sur 98.fr, sur DAB+ et sur notre appli. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous avons trois entreprises de secteurs très différents. Nous recevons Audrey Anthony qui dirige la société Ergoneo, qui est l'organisme de formation au service de la performance des recruteurs. Éric Fouillet, courtier en énergie au sein de Place des Énergies, qui est une entreprise spécialisée dans l'organisation d'achats groupés d'énergie. Et Franck Bonacera, qui dirige Sisax Group, pôle de sous-traitance industrielle et mécanique. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous allons commencer avec Audrey Anthony, qui dirige la société Ergoneo. C'est une société qui a été créée en 2021, spécialisée dans la formation visant à l'amélioration de la compétence des recruteurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire plus, Audrey?
Bonjour Paul, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Audrey Anthony. Je suis venue petit à petit à l'entrepreneuriat après avoir effectué une première partie de carrière dans le recrutement, autant en agence d'intérim qu'en cabinet, mais aussi RH en grande entreprise, notamment à Radio France. J'ai travaillé ensuite 12 ans à Pôle emploi sur plusieurs postes et mes deux derniers postes étaient à la direction générale, au service de la direction des demandeurs d'emploi pour créer de nouvelles prestations pour nos demandeurs et également à la direction des systèmes informatiques pour accompagner le déploiement des projets digitaux sur le territoire national. J'en suis partie pour faire une école de commerce, l'EDEC, et créer mon entreprise Ergoneo pour préparer ma seconde partie de carrière.
Alors, pourquoi Ergoneo déjà? Le nom, moi ça m'intéresse toujours de comprendre l'origine des noms.
Alors, ergos, ça vient du grec, j'aime beaucoup le grec ancien. Et donc, ergos, c'est le travail, neo, c'est nouveau. Donc, c'est une nouvelle façon d'aborder le travail. Et le travail, c'est le nerf de la guerre pour le recruteur, c'est sa matière première.
Très bien. Donc, maintenant, je compris. Pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur? Donc c'est pour passer de l'autre côté de la barrière? C'est quand même pas facile en venant de j'allais dire d'une grosse administration quelque part.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait une école de commerce après pour plutôt m'acculturer au milieu de l'entreprise. Je crois qu'il y avait vraiment besoin de ce passage-là. Pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat? Eh bien, à un moment donné, j'ai senti que j'avais beaucoup d'énergie. J'avais envie de créer. J'ai toujours aimé créer. Et j'avais envie de créer un organisme pour pouvoir le piloter. Et aussi, l'entrepreneuriat m'apporte beaucoup de choses. C'est un environnement très riche en aventure émotionnelle, en aventure humaine, et on apprend tous les jours. Donc j'avais envie d'explorer quelque chose de nouveau et de pouvoir m'y investir totalement.
Donc vous êtes lauréate de Réseau Entreprendre 95. Vous êtes basée à La Turbine, à Cergy?
Oui.
Et donc, est-ce que cet environnement et cet accompagnement vous aide? Qu'est-ce qui vous a amené à rechercher à la fois un incubateur et l'accompagnement de Réseau Entreprendre?
Alors, je voulais un accompagnement de terrain qui connaissent bien les entreprises de proximité. Donc, Réseau Entreprendre me paraissait tout à fait adapté à cette demande, pouvoir répondre à cette demande. Réseau Entreprendre nous offre de la visibilité, un accompagnement, nous offre des conseils et également être en dynamique avec un réseau d'entrepreneurs. Réseau Entreprendre nous offre la possibilité aussi d'être accompagné par un mentor avec lequel on peut échanger sur des problématiques autant managériales et d'entreprise que des problématiques personnelles. Donc se créer un lien très très fort avec son mentor, et ça on en a vraiment besoin en tant qu'entrepreneur.
Ça évite d'être seul. La solitude du chef d'entreprise.
Dans un premier temps, avant de recruter bien sûr. Et la Turbine est un endroit extraordinaire parce qu'on peut proposer, on peut développer un projet seul, mais je pense qu'une entreprise, on a vraiment besoin d'être dans un environnement effervescent et dynamique, et la Turbine est extraordinaire pour ça.
Alors, l'actualité du recrutement, ses défis, son évolution actuelle. Donc, votre offre actuellement, elle intervient vraiment dans un environnement où on voit bien que les paradigmes change, c'est plus les gens qui cherchent un emploi, quelque part il y a une pénurie dans toute une série de secteurs, il faut passer de l'autre côté de la barrière, et c'est le recruteur qui doit séduire, les postulants.
Oui.
Donc dites-moi où on en est, et votre offre par rapport à ça, comment elle se positionne?
Oui, on considère que sur certains secteurs aujourd'hui, la main-d'œuvre est assez pénurique, donc les entreprises doivent changer de paradigme. Avant, on passait simplement une offre et on avait des candidatures qu'on pouvait trier. C'était relativement simple. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de candidats via ce réseau-là. Donc notre entreprise Ergoneo, elle va travailler sur les compétences des recruteurs, et parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui doivent savoir se vendre et utiliser des canaux très en vogue, très nouveaux, pour pouvoir recruter de façon différente. Donc nous, on va agir sur les compétences des recruteurs, notamment sur la formation digitale et savoir construire une image employeur très attractive.
On va peut-être poser la question à Franck Bonacera. Aujourd'hui, quand vous cherchez à recruter, comment procédez-vous?
Alors nous, lorsqu'on recrute, déjà on forme beaucoup en interne. On forme des jeunes, on forme même des gens qui se sont requalifiés au cours de leur vie. Et puis nous avons une directrice des ressources humaines en temps partagé. C'est elle qui s'occupe effectivement d'aller un petit peu sur tous les médias pour chercher des personnes à recruter. Il faut reconnaître que ça se fait beaucoup au bouche à oreille lorsqu'on a des éléments donc qui permettent d'attirer les talents. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup quand même le bouche à oreille qu'ont attiré des gens chez nous.
Dans les PME, c'est beaucoup le bouche à oreille, parce que après tout passer par d'autres structures, ça coûte aussi très cher.
Déjà une notion de coût, et puis généralement une personne qui a entendu dire qu'il y avait des choses qui lui plaisaient est quand même plus apte à venir, et à venir avec envie de réussir.
Des fois, c'est aussi plus dur de recruter, d'attirer. Dans les petites structures, donc il faut vraiment avoir faire comprendre le plus de la petite structure en termes d'autonomie, en termes de
oui, tout à fait. Je sais même pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place qui correspondent à ce que font les grandes. On a de l'intéressement, même conséquente puisqu'elle est basée sur le résultat. On a des plans d'épargne entreprise, on a des réunions en interne. Non, je crois que c'est surtout d'avoir des personnes aujourd'hui qui effectivement ont une approche du travail qui correspond à peu près à ce qu'on pouvait quand même trouver il y a 5 ou 10 ans. Et parce qu'on rencontre aussi des gens qui veulent travailler que pour 6 mois et récupérer leurs droits et repartir. Et on essaye effectivement de pas recruter ces personnes-là, parce que ça a pas vraiment de sens, quoi.
Et ça, c'est aussi le rôle du recruteur, de déceler tout ça si la personne n'affiche pas la couleur immédiatement.
L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils le disent clairement. Ça aide.
Par rapport aux commentaires de Franck,
oui, c'est intéressant. Franck est assez, on va dire que la PME, les méthodes de la PME de Franck sont tout à fait représentatives, puisqu'on sait que aujourd'hui, les entreprises recrutent principalement d'un premier abord dans leur réseau, c'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc d'abord dans leur réseau, par cooptation, c'est une grande partie des recrutements en France, c'est le marché caché. Ensuite, elles commencent à passer des offres. Et si les offres ne marchent pas, en dernier recours, aller voir le cabinet de recrutement qui, lui, prend un pourcentage.
Donc vous êtes sur la partie « j'accompagne l'entreprise ».
Oui.
Éventuellement les recruteurs des cabinets de recrutement pour qu'ils soient eux aussi plus performants, mais vous avez aujourd'hui vos clients, quels sont-ils? C'est tout le monde?
Alors nous, on a la double casquette, on peut accompagner les recruteurs et les opérationnels du recrutement dans les PME. On accompagne également les agences d'intérim et les recruteurs qui ont parfois un profil assez commercial, donc on a fait des formations adaptées, et on accompagne les cabinets de recrutement de toute taille, même les cabinets de recrutement internationaux. Et on accompagne aussi une cible naissante qui sont les recruteurs indépendants, qui est un métier en plein essor, qui suit les traces de l'indépendant en immobilier qui a été créé il y a une dizaine d'années au modèle IAD par exemple, et qui commence maintenant aujourd'hui à se développer avec une petite dizaine d'années de retard.
Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des indépendants qui prennent une forme de franchise en termes de...
Ça aurait pu être de la franchise, effectivement. On a ce modèle économique du recruteur en franchisé. Il y en a beaucoup. Et là, on a les réseaux d'indépendants, c'est-à-dire des indépendants qui gardent leur statut, SASU, auto-entrepreneur.
D'accord, mais ils se fédèrent sous une enseigne ou même pas ?
Oui, et ils intègrent un groupe, un réseau qui, elle, va prendre en charge la communication externe qui est parfois souvent très lourde.
D'accord.
Très lourde pour un indépendant. Donc, d'où l'intérêt, en tant qu'indépendant, de rendre le service sur le terrain, mais de s'intégrer dans un réseau national plus vaste, auquel, après, il paye des redevances, etc.
D'accord. Alors, oui. À partir de là, quels sont vos concurrents ?
Eh bien, en fait, des concurrents, on en a pas beaucoup, puisque nous, on est une organisme de formation qui est principalement en B2B. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises, aux recruteurs qui sont en entreprise, aux opérationnels du recrutement, et on aide toute cette population-là à monter en compétences. Nos concurrents, souvent, sont des organismes de formation qui forment aux techniques de recrutement plutôt en B2C, c'est-à-dire plutôt des personnes qui vont devenir recruteurs. Or, nous, on s'adresse aux recruteurs qui sont déjà en poste. Donc, on est dans cette optique d'aide à l'entreprise, en B2B.
D'accord. Et dans vos offres, vous avez rajouté la paye ?
Oui.
Donc, comment vous la positionnez par rapport à, j'allais dire, l'offre de formation que vous avez ?
On a trois types de formations à la base. Au départ, on avait celle qui est notre formation phare, c'est le relationnel commercial pour les recruteurs en cabinet de recrutement et en agence d'intérim. Elle répond à un vrai besoin, puisqu'on s'est aperçu au fur et à mesure des années que les cabinets d'intérim et les cabinets de recrutement, en fait, recrutaient des recruteurs et qu'assez rapidement, on leur demandait de faire du commercial. Or, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers et ils ne sont pas toujours accompagnés en interne. Donc nous, on a créé cette offre pour faire le lien et c'est une offre qui a beaucoup de succès. Ensuite, on a créé une formation sur recruter avec les réseaux digitaux pour pouvoir faire d'une entreprise qu'elle puisse utiliser complètement les réseaux au service de son attractivité et avoir des meilleurs talents. On a ensuite travaillé sur une offre plus réglementaire sur l'actualité RGPD puisque la CNIL va commencer à normer les données candidats et les données des salariés. Jusqu'à présent, la CNIL a travaillé avec les données des clients et maintenant, elle va commencer à normer le recrutement et c'est un grand écart pour 99% des PME qui aujourd'hui n'ont pas de méta d'RGPD pour le recrutement. Et très récemment, pour répondre à votre question, on s'est ouvert à la paye sur demande de nos clients, en intérim notamment, qui ont des demandes relatives à la compréhension de la paye. C'est une formation qui est plus globale et elle aide les recruteurs en agence d'intérim à mieux appréhender leur métier technique et pouvoir répondre aux questions de leurs salariés, de leurs intérimaires.
Merci. J'aimerais revenir après la pause. Nous allons faire une première pause musicale et après la pause, j'aimerais bien revenir sur le RGPD.
Avec plaisir.
We are one out of ten in the world. Not alone, we claim our words. And we fight for our rights until we get a cure. And we'll pray for the day we'll be free. Paris to Geneva, from Tennis to Kenya, from Quebec to London, I'm giving you my hand, from Spain to Buenos Aires, Poland to USA, from Gavin to Chile. I'm giving you my heart. We are one out of ten in the world. We are strong, we claim our words. And we talk and we walk until we ouest au Genève.
Vous êtes toujours sur Radio IDFM et nous sommes toujours avec Franck Bonacera de la société Sisax Group, Eric Fouillet de Place des Énergies et Audrey Anthony de Ergoneo. Donc Audrey, juste avant la pause musicale, je vous disais que je voulais que vous me rentrez un peu plus dans le détail de RGPD et des contraintes, parce que le principe des recruteurs, c'est quand même d'avoir des bases de données et d'avoir toute une série de contacts sur la durée, pour pouvoir effectivement mettre en correspondance l'offre et la demande. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, effectivement, comme vous le dites, le recruteur, il a une base de données qui est remplie de CV et donc de données personnelles des candidats. Et ça, on ne s'en rend pas bien compte, mais un CV comporte des données tout à fait personnel, le nom, le prénom, parfois la date de naissance, l'adresse, l'email, le téléphone, et à parfois même à l'intérieur de CV des données sensibles concernant la santé ou parfois des périodes d'incarcération du candidat. Et ça, ce sont des données qui doivent être normées et le recruteur ne peut pas faire n'importe quoi avec. Il ne peut pas les transmettre, il doit les garder dans un endroit sûr. Il ne peut pas donc les imprimer sur un format papier et les laisser traîner sur son bureau. Et c'est également, il faut qu'il fasse très attention à la sécurité de sa base de données. Donc, très rapidement, hein, RGPD intervient aujourd'hui à toutes les étapes du recrutement, de la réception du CV à sa conservation, à quel moment on peut garder le CV, comment est-ce qu'on peut le transmettre, et dans, évidemment, la sécurité informatique de l'entreprise, hein, qui doit se doter, pour protéger ses données candidats, eh bien, d'un certain nombre de sécurité pour protéger son système.
Donc finalement, ce qu'on fait pour les clients, il faut le faire aussi pour les contacts qu'on peut avoir.
Oui.
De manière à vraiment se protéger, enfin protéger toute l'information de tous les flux entrants ou sortants,
oui,
de la société.
Et attention à la transmission, on peut pas transmettre le CV à n'importe qui. Hein, il faut le consentement du candidat. Également, les entreprises aujourd'hui doivent faire très attention qu'il y a des données que l'on peut collecter, durant le recrutement, et des données que l'on collecte post-contractualisation. On ne peut pas, par exemple, demander au candidat son numéro de sécurité sociale pendant le recrutement. Ça, ce sont des données qui doivent être perçues post-contractualisation.
Après.
On ne peut pas demander à un candidat, s'il a des enfants, même si c'est pour la bonne cause, parce qu'il y a un CE en interne et qu'on veut juste l'inscrire sur les données du CE, eh bien non, ça c'est aussi post-contractualisation. Donc les entreprises aujourd'hui doivent bien faire attention à quelles données ils peuvent collecter avant et après contractualisation. C'est un exemple.
Très bien. Et donc, sur vos différentes formations aujourd'hui, quelle est la formation phare ? Parce que vous devez faire aussi du cous humain en fonction de ce que demandent les uns et les autres.
Bien sûr. Notre formation phare, c'est la formation le commercial pour les recruteurs. Hmm. On travaille pour des agences d'intérim et qui ont des problématiques très spécifiques et très terrain. On travaille avec des cabinets de recrutement, là, récemment, cabinet de recrutement international. Donc les recruteurs doivent développer leur relationnel commercial. C'est pas toujours évident parce que souvent ils viennent de la RH. Ils savent très bien trier des CV, très bien accompagner les candidats. Mais après, construire sa relation commerciale, construire sa relation au client est un autre monde. Hein, il faut les accompagner là-dessus.
Les modules de formation durent combien de temps ?
On fait du cous humain. Ça peut être du présentiel, du modulaire en visio. 2 heures de modulaire en visio sur plusieurs semaines si besoin. L'entreprise a le choix complètement de la modalité pour s'adapter au mieux à son activité en interne.
Donc présentiel, distanciel, visio.
Tout à fait.
Donc au choix en fonction du format. Vous faites de l'inter-entreprise, c'est-à-dire des formations pour plusieurs cabinets de recrutement par exemple,
oui,
en même temps ?
On fait de l'intra, ce qu'on appelle de l'intra, c'est-à-dire une formation juste pour le client qui le demande. Et on fait également de l'interprofessionnel. Avec plusieurs, on peut avoir dans une session de formation, plusieurs clients.
Et vous êtes évidemment Calliope, donc c'est l'organisme certificateur qui fait que aujourd'hui, en tant que centre de formation, toutes vos formations peuvent être prises en charge par un OPCO, donc un opérateur de compétences.
C'est ça, ce qui permet à l'entreprise d'être aidée dans son financement, parfois tout ou partie.
Et ça permet effectivement, c'est aussi un gage de qualité d'avoir la certification en question.
Oui.
Vous me confirmez?
Ah, je confirme. On a beaucoup travaillé sur la certification Calliope, qui est une très belle certification qualité. Tout à fait.
Quand j'ai préparé l'émission, j'ai été sur votre site et j'ai vu que vous dites que vous êtes une entreprise à mission. Vous pouvez redévelopper un peu ce point-là? Pour vous, être une entreprise à mission, c'est quoi?
Être une entreprise à mission, c'est une entreprise qui défend des valeurs sociétales. Alors, quel est le lien entre l'organisme de formation et mission sociétale? Eh bien, le recrutement, c'est un métier à forte dominante humaine. Et c'est pour moi le métier RSE de demain par excellence.
Alors, RSE, responsabilité sociale.
Voilà.
Sociétale ou sociale?
Sociale, économique ou environnementale. Et le recruteur a beaucoup de poids, en fait. Il a un vrai pouvoir humain et un grand impact, en fait, sur la société. C'est lui qui va ouvrir les portes de la société au public, des publics qui sont parfois discriminés, des publics en inclusion, des publics qui subissent le handicap. Donc, le métier du recruteur, c'est le métier qui peut aussi éduquer les entreprises à absorber dans son intérieur des publics plus en difficulté ou des publics de prime abord sur lesquels on ne se serait pas appuyé. Et ça, c'est, à mon avis, le recruteur qui a cette responsabilité. Et d'ouvrir l'entreprise à d'autres valeurs, hein, pour se décentrer et ouvrir à l'inclusion, puisqu'on sait aussi que les entreprises qui ont des chartes en interne, des chartes RSE, sont plus performantes que celles qui n'en ont pas. Donc je crois que le recruteur peut être aussi un éducateur de l'entreprise.
Alors, vous avez une charte RSE, elle est sur votre site.
Oui.
J'ai trouvé qu'elle était intéressante, parce qu'il y avait plein de points. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous donner juste un ou deux points clés dans votre esprit qui sont fondamentaux sur la manière dont vous fonctionnez?
Oui, par exemple, on promeut les... On a des actions de communication pour promouvoir le recrutement non discriminant. Par exemple, nous avons travaillé avec la mission locale de Cergy et on a créé des sketchs avec les jeunes des missions locales de Cergy et on les a montrés à des responsables d'entreprise, à des responsables RH. Donc on a organisé un événement où ces deux publics pouvaient se parler et on a travaillé sur le thème de la non-discrimination mais aussi sur le thème de l'intergénérationnel en entreprise. Donc ça, c'est aussi l'ADN d'Ergoneo, c'est de faire des actions de communication pour promouvoir un recrutement RSE plus inclusif. Sans déflorer le sujet, on travaille aujourd'hui avec le théâtre des Louvrais et la scène Point Commun et on travaille sur un projet qui devrait naître fin d'année ou début d'année prochaine 2024 pour promouvoir à plus grande échelle des publics, ce qu'on appelle les publics empêchés, et les mettre en communication avec des RH en entreprise. On voit si ce projet peut marcher.
Oui, il y a tous les projets qui tournent autour des quartiers prioritaires qui permet effectivement de reconnecter les jeunes avec l'entreprise aussi.
Voilà, et de parler de façon différente des thématiques qui restent toujours un petit peu abstraites comme la discrimination ou l'intergénérationnel ou l'inclusion par exemple.
Merci sur ce point sur la RSE. Donc, juste pour... On arrive au bout de notre interview ensemble. Juste sur... comme vous êtes une jeune entreprise, les principaux obstacles que vous voyez dans les mois qui viennent du fait, j'allais dire, de cette phase de lancement de votre société?
Alors... Oui, est-ce que ce sont des obstacles? Je ne sais pas, je les vois plutôt comme des défis. Donc Ergoneo entre dans sa troisième année de vie et c'est souvent la dernière année qui est décisive pour une entreprise, on le sait. Donc pour accompagner notre développement commercial, je souhaite étayer notre activité qui est en phase d'amorçage encore par la construction d'une équipe commerciale. Donc nous allons recruter et nous allons aussi diversifier notre offre.
Bien, donc au-delà de la paye. Donc.
Au-delà de la paye,
d'accord.
Bien sûr.
D'accord. Et juste une dernière question, votre plus belle réussite?
Eh bien, ma plus belle réussite d'entrepreneur, c'est avoir parcouru suffisamment de chemin pour être avec vous aujourd'hui et d'avoir convaincu et satisfait mes premiers clients.
Merci Audrey Anthony d'Ergoneo. Nous allons marquer une nouvelle pause.
Merci à vous.
Shakare 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 petara no re rindimanam shakare 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 petara di hamachimanam shakare 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 petara no re rindimanam shakare 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 pet namro dem kamoranda
toujours sur Radio IDFM après cette pause musicale et nous sommes toujours avec Audrey Anthony d'Ergoneo, Franck Bonacera de Sysax Group et Eric Fouillet de Place des Énergies. Donc Eric, si vous pouviez vous présenter et nous présenter votre structure, Place des Énergies.
Oui, bonjour à tous. Eh bien Eric Fouillet, j'ai créé mon entreprise il y a un an à peu près, après 26 ans passés dans l'industrie française, dans des grands groupes français, en tant que commercial et une partie en France, une partie internationale, dans la métallurgie, dans le gaz industriel et puis dans la construction de travaux d'infrastructures pour l'énergie, ce qui m'a amené à m'intéresser justement au monde de l'énergie, le transport de gaz, de pétrole et puis d'électricité, la production d'électricité. Donc quand j'ai créé mon entreprise, j'étais orienté vers l'énergie et j'ai fait la rencontre de la société, du chef d'entreprise, du fondateur de Place des Énergies, qui se développe sous forme de franchise en France et qui a créé le premier réseau de courtage en énergie en 2013. Donc c'est déjà un métier qui a 2 ans, mais en même temps qui est très récent et très peu connu.
Oui, une dizaine d'années d'existence.
Une dizaine d'années. Sous le, alors pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de courtier en énergie en France auparavant? Parce qu'il y avait un monopole d'EDF et un monopole de gaz de France pour et l'électricité et le gaz. Et avec l'ouverture des marchés qui ont été une nécessité face aux contraintes européennes, on va dire, il y a eu la création de beaucoup de fournisseurs alternatifs pour ouvrir le marché, et donc c'est difficile de s'y retrouver.
Alors aujourd'hui, il y a combien d'intervenants, j'allais dire, en termes de solutions alternatives à Engie, à EDF?
Alors, si on, avec Engie, EDF, enfin, les gros, les plus connus, il y a 120 intervenants en France recensés par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, en 2022, dont une soixantaine, on va dire, d'actifs dans le sens où ils peuvent faire des offres sur 90% du territoire. Donc c'est quand même très important, on n'imagine pas qu'il y a autant de fournisseurs.
120, c'est énorme, parce que quand, à titre particulier, quand on reçoit la liste des gens qui sont susceptibles de vous contacter, d'ailleurs je ne sais pas comment ils gèrent le côté RGPD par rapport à ça, parce que ça veut bien dire que je crois qu'ils demandent l'accord pour pouvoir communiquer les coordonnées à leurs confrères, mais il n'y a pas 120 dans la liste qu'ils proposent.
Non, bien sûr. Donc, non, ils ne sont pas tous. Les 120, je vous dis, c'est il y en a 60 qui peuvent répondre sur tout le territoire, à 90% du territoire.
Même 60 dans les listes qu'ils proposent. J'allais dire, il y a de grands intervenants et il y a de plus petits intervenants.
Tout à fait. Entre autres, les régies. Il y a des régies en région dont on ignore le nom quand on habite une partie de la France.
Qu'est-ce que c'est qu'une régie dans ce contexte?
Une régie, on a par exemple la régie à Bordeaux, c'est Gaz de Bordeaux qui fournit du gaz et qui gère le réseau bordelais, alors que nous, chez nous, les réseaux sont gérés par Gaz de France historiquement. Ouais.
D'accord. La régie, c'est quelque chose à Bordeaux, par exemple. Oui. Ça émane de la mairie, c'est ça?
Alors, non, pas du tout.
C'est du parapublic.
C'est avant-guerre. Il y avait chaque région avait son fournisseur d'énergie et Gaz de Bordeaux à 120 ans. Donc vous voyez, c'est quand même. Je cite celui-ci pour comme il y en a d'autres. Et après guerre.
Donc on revient un siècle en arrière.
Voilà, on revient un siècle en arrière. Et après la Seconde Guerre mondiale, pour relancer l'économie française et les infrastructures, on a regroupé tous les fournisseurs sous une seule entité qui était Gaz de France pour le gaz et EDF pour l'électricité. Mais dans certaines régions, il y a des régies qui sont restées. Et aujourd'hui, ce sont des régies qui peuvent vendre leur gaz ailleurs que sur leur territoire historique et qu'on peut retrouver pour faire pour nos clients dans le nord de la France, pourquoi pas.
Donc, on revient à la question de base qui était plus d'une centaine d'intervenants. Donc ça, on a c'est le côté fournisseur.
Oui.
Et donc avant de voir comment vous mettez en relation les fournisseurs et les clients, si on va regarder le côté client. Alors quels sont vos clients?
Tout à fait. Alors déjà, je vais rebondir sur le RGPD. Nous aussi, on fait signer des documents qui parfois surprennent nos clients parce qu'on va leur demander des informations sur leur consommation et on va aller analyser leur consommation auprès du gestionnaire de réseau. Et donc, ces informations-là, on va les retransmettre après aux différents fournisseurs. Donc, nous aussi, on a cette contrainte, mais qui est qui protège toutes les données de tout à chacun.
Toutes les façons, derrière, vous ne les commercialisez qu'avec l'accord des intéressés. C'est le principe du RGPD, où vous ne les commercialisez pas.
On ne les commercialise pas, d'ailleurs. Nous, d'accord, c'est juste de l'information pour pouvoir récupérer des offres en retour pour nos clients. Alors, nos clients, on va, pour répondre à votre question, on va étudier leurs besoins.
Alors déjà, quels sont vos clients? Avant d'étudier leurs besoins, c'est tout le monde?
On a la chance d'avoir des consommateurs. Tout le monde consomme de l'électricité, ou quasiment tout le monde. Donc, on a un axe sur les entreprises. Toutes les entreprises consomment de l'électricité et parfois du gaz. Donc, c'est déjà un axe important en B2B. Et il y a également, tout ce qui est copropriété. Et puis, après, on a les particuliers qui sont aussi des clients.
Donc, quand vous parlez de copropriété, c'est aussi bailleur public, c'est ça?
Alors, bailleurs sociaux, bailleurs publics, et puis copropriété complètement privée, oui, ouais, tout à fait.
D'accord. Et particulier en tant que tel, celui qui a le pavillon ou pas du tout?
Celui qui a un pavillon.
Ponctuellement?
Alors, ponctuellement, non, pas ponctuellement. On a un service dédié qui permet à chaque particulier de vérifier si son fournisseur actuel, l'offre actuelle est adaptée à son besoin et au meilleur tarif.
Bon, donc maintenant, on a vu la partie fournisseur, on a vu la partie client. Donc maintenant, votre intervention et comment vous procédez concrètement ?
Alors concrètement, on va étudier les besoins de notre client. Déjà, comme on en parlait tout à l'heure, relever auprès du gestionnaire de réseau ses consommations, ses courbes de charge. Hein. Donc vous savez, il y a des consommateurs qui vont plutôt avoir des besoins en heure creuse, en heure pleine, donc le jour ou la nuit, en différentes saisons. Et puis on va établir et déjà informer le client des possibilités. Et puis on va établir une stratégie, surtout avec les professionnels, pour définir si on veut travailler sur du long terme, du court terme, puisque en fonction des besoins et du marché, il y aura un intérêt à travailler sur un an ou trois ans.
Alors aujourd'hui, par exemple, l'intérêt, c'est...
Bah aujourd'hui, c'est
parce qu'on est vraiment dans un environnement qui est tellement mouvant, fluctuant.
Après, ça dépend un peu de la stratégie, la vision de chacun. Nous, on ne va pas forcer un client à prendre une décision sur la durée, mais on va lui expliquer ce qui se passe. Le marché a fortement augmenté en 2022. D'ordinaire, on plutôt incite les gens à prendre sur 3 ans, parce que plus on achète sur des longues périodes, plus l'énergie, enfin du moins l'énergie est chère. Voilà. Si vous l'achetez pour l'année suivante, elle est très élevée. Dans 2 ans, elle est moins chère. Dans 3 ans, encore moins chère. Ce qui fait que globalement, mathématiquement, en moyenne, on a un prix qui va descendre. C'est toujours le cas, que le prix soit élevé ou que le prix soit bas. Par contre, aujourd'hui, l'instabilité du marché fait que certains préfèrent prendre que sur 12 mois et prendre le risque d'avoir raté un prix lissé, mais de se dire...
Oui, de se dire ça va baisser forcément plus bas que le lissage.
Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment, quand je vous parle de stratégie, c'est vraiment une stratégie, mais c'est pas nous qui décidons pour le client, on lui donne les éléments et c'est lui qui décide en fonction de ses convictions.
Oui, et peut-être c'est la structure du chiffre d'affaires de la société, est-ce qu'elle est en plein développement ou pas, fait que on est tenté par prendre des paris ou pas.
Ou pas, tout
donc
à fait,
effectivement, il y a des données microéconomiques de chaque société qui vont faire que on va choisir une solution plutôt qu'une autre.
Quel est le carnet de commandes et puis à ce prix-là, est-ce que ma société sur 3 ans est viable ou pas. Donc si elle est pas si c'est pas viable, je prends le risque. Si c'est viable, je prends pas de risque justement de voir une augmentation que je n'aurais pas vu venir dans 2 ans en lissant sur 3 ans. Donc c'est vraiment chaque chef d'entreprise pourra décider en fonction de ses contraintes et de sa
visibilité. Oui, vous parliez aussi quand on a préparé l'émission de tout ce qui est prix fixe, prix variable.
Alors oui, on peut avoir des prix fixes justement sur plusieurs années ou s'orienter sur du prix variable. Par exemple, le PEG, qui est pour le gaz.
Le PEG, ça
le PEG, ça veut dire... c'est un prix qui est indexé sur le prix moyen journalier du mois précédent. Et donc, chaque mois, votre prix de la molécule de gaz va évoluer. Alors... C'est un pari. Beaucoup ont fait ce choix-là cette année en se disant, des gros industriels hein, ont pris le risque, bon, qui ont de la trésorerie, ont pris le risque pour pas s'engager sur une longue durée à des prix très élevés, de se dire on prend le pari que ça baissera et on va travailler sur du prix variable au mois le mois. Alors après, aujourd'hui, on est en tendance baissière, donc c'est plutôt un bon pari. Mais il a fallu avoir la trésorerie pour supporter les mois difficiles de cet été.
Allez-y.
Oui, alors pour la stratégie aussi, on peut parler de l'arène. Hein, je pense qu'on en a discuté. C'était la question qui allait venir.
Ça venait derrière. Donc voilà. Donc vous avez anticipé ma question.
Voilà. Donc dans le prix fixe.
Alors l'arène. Juste. Voilà. C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire.
Énergie nucléaire.
Tout
à fait. Ouais. Ah ouais. Donc dans le prix fixe, on peut ajouter une partie arène. Chaque consommateur a un droit à REN qui est distribué par le gouvernement, par la CRE. Et ce mécanisme impose à EDF de revendre de l'énergie nucléaire au prix de 42 euros le mégawattheure à tous les fournisseurs alternatifs. 42 euros le mégawattheure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix du mégawattheure est autour de 220 euros le mégawattheure, mais il est monté à 1200 euros au mois d'août. Donc le delta est très important et les économies importantes. Mais dans ce mécanisme-là, même s'il permet de baisser de façon significative, et c'est très intéressant, le prix de l'énergie, il y a quand même des risques, puisqu'on se retrouve avec un volume disponible qui est de 100 TWh par an. On consomme en France à peu près 400 TWh. Et c'est sous forme de guichet. Chaque fournisseur alternatif va utiliser les droits ou faire une demande en fonction des droits de ses clients. Et on va atteindre un volume global fin novembre qui sera peut-être de 100 TWh, 110, 120, 130. Et on est monté un peu plus que ça ces dernières années. Et après cette date, eh bien, l'État a dit, voilà, vous avez dépassé les 100 TWh, donc on va faire ce qu'on appelle l'écrêtement. Et donc on va vous retirer à chacun le pourcentage d'Arenh qui a été acheté en trop. Et donc là, on se retrouve en fin d'année, quand l'énergie est chère, où le fournisseur alternatif va devoir retirer une partie Arenh à son client et le remplacer par de l'énergie achetée sur les marchés. Et là, en fin d'année, cette année, on était sur du 400 euros le mégawattheure, donc ça fait un prix qui n'est pas certain, en fait, quand vous signez pour de l'Arenh. Il y a toujours une surprise à l'arrivée.
L'effacement et ce que vous venez d'expliquer, ça n'a rien à voir ou
c'est, ça
ou
n'a rien à voir.
Alors on en parlera après. Parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment, ça pouvait avoir une...
Non,
alors on en parle après. Je voudrais juste, avant qu'on fasse une nouvelle pause, poser la question à Franck Bonacera, qui est un industriel, avoir la vision de l'industriel par rapport à cette problématique énergétique.
Eh bien, nous, on est un petit peu comme tout le monde. Effectivement, les prix ont augmenté. Maintenant, la chance, c'est qu'on n'est pas très, très gros consommateurs. Donc, ça impacte pas pour le moment plus que ça nos résultats, enfin cette partie énergétique. Mais effectivement, c'est des prix quand même qui ont doublé, voire triplé. Et effectivement, on est dedans.
Oui, de toute façon, Place des Énergies a été créée, et on n'est pas tout seul depuis. Il y a beaucoup de courtiers en énergie, à une époque où le prix de l'énergie était stable. Et pourtant, déjà, à cette époque, il y avait un intérêt de consulter un courtier en énergie pour réduire. C'est toujours intéressant de gagner 15, 20, 25% sur sa facture d'énergie, ou d'adapter aussi ses besoins. Par exemple, dans la métallurgie, autrefois, on avait des générateurs très, très gourmands en énergie, c'était des transformateurs, et on avait des abonnements très élevés. On peut faire de l'optimisation de la puissance souscrite, parce qu'avec les nouvelles technologies, je pense aux générateurs, la technologie onduleur, on consomme beaucoup moins, effectivement, mais on continue à payer un abonnement pour des puissances très élevées, alors qu'on peut réduire considérablement le prix de l'abonnement.
Ça peut être
une piste déjà intéressante. Il se trouve que cette année, on a en plus l'impact des augmentations extrêmement importantes qui fait que notre métier est un peu mis... est important ou du moins peut rendre des services beaucoup plus importants en termes d'économie par rapport à ce qui existait il y a quelques années.
Donc nous allons marquer, comme je l'ai promis, une nouvelle pause. À tout de suite.
Face au ballon, des rêves s'envoler au vent. J'ai vu des des ballons. J'en ai vu tout réparer sans jamais tourner les talons. Et d'autres seulement s'échouer dans la chair, la poudre à canon. Moi je t'ai vu, la main sur le cœur, le regard perdu. Face à cette femme dans la rue, t'as dit son nom, elle a pris peur, elle a pensé comment. Le connaît-il, il me fait flipper légèrement. Enfin j'ai cru, j'étais juste témoin, mais j'ai vibré quand elle t'a reconnu. Comme si au-dessus des étoiles tout était calibré. Vous vous êtes tombé dans les bras, je vous ai pas retenu. J'ai vos histoires plein la tête, c'est pas que je mate mais je m'inspire. Je laisse le quotidien m'instruire. J'en ai vu construire et d'autres acheter, étouffer. J'en ai vu bouffer de l'écran HD à étouffer. Je regarde le monde avec un œil de môme sur deux. L'autre connaît l'immonde et les problèmes d'oseille. J'ai tout mélangé pour te livrer ce poème. On va te chanter des conseils.
Tout seul face à la foule, il faut avancer en y croyant. Si parfois tes larmes roulent, laisse aller tes élans. Ici même accompagné.
J'ai vu des arcs-en-ciel, des océans déchaînés, des mères qu'en chient, des fils enchaînés. Ça t'a pas gêné, j'en ai vu t'écraser sans freiner, ça m'a pas gêné. J'ai vu des réactions en chaîne et tout ce qu'elles ont entraîné. Tu sais, j'en ai vu assez et peut-être plus encore. Je suis tout cassé, je ne sens plus vraiment mon corps. Et si t'aimes pas le vrai, tu vas me haïr. Tu devrais me laisser t'envahir. J'suis pas là pour te faire la morale. J'te donne de tout, mais pas le mépris. Quand je m'étale à l'écrit, t'as les couleurs et t'as les gris. Si t'entends pas les cris, je vais te chuchoter des conseils. Ouais, laisse mon frérot chanter.
Tout seul face à la foule, il faut avancer en y croyant. Si parfois t'es l'amour, laisse aller tes élans. Ici même.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec Franck Bonacera de Sisax Group, Audrey Anthony d'Ergoneo et Éric Fouillet de Place des Énergies. Audrey, pendant la pause musicale, vous m'avez dit que vous souhaitiez poser une question à Éric Fouillet. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, je vous passe la parole.
Oui, effectivement, j'avais une question. J'aimerais savoir comment se rémunère Place des Énergies.
Mais en fait, il y a plusieurs façons pour se rémunérer. D'abord, l'offre de courtage gratuit. Donc, nous sommes rémunérés par le fournisseur qui aura été retenu. On a une vingtaine de partenaires avec qui nous avons des accords. Et si, alors comment ça se passe? On va présenter différentes offres à nos clients. S'ils retiennent une des offres, c'est sans engagement, eh bien l'offre qui sera retenue, alors généralement c'est la moins chère, hein, mais celle qui sera retenue, ben on enregistrera la commande auprès du fournisseur qui nous rémunérera sous forme de commission. Voilà. Après, d'autres solutions, c'est le courtage payant ou des services d'accompagnement sur la durée. Donc le courtage payant, c'est lorsqu'un client, par exemple, a toujours travaillé avec des fournisseurs qui ne sont pas partenaires, mais qui souhaitent continuer, ou en tout cas les solliciter pour qu'ils soient dans l'étude de marché, l'étude de prix. Eh bien, c'est le client consommateur qui nous rémunère. Et du coup, nous, on n'attend pas de rémunération de fournisseurs, même si on n'a pas de partenariat avec eux. Troisième solution, c'est une forme d'abonnement. On va accompagner le client pendant plusieurs années. Ce sont des mensualités. Et on pourra faire du suivi de consommation, suivi des facturations. Et comme il nous rémunère pour cela, eh bien, on pourra consulter l'ensemble des fournisseurs du marché pour leur proposer les meilleures solutions.
Merci.
Voilà.
Alors, merci Audrey de jouer mon rôle. Donc, je reviens sur la notion d'effacement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, puisque je commençais à faire une petite confusion avec ce que vous racontiez avant?
Alors, l'effacement, effectivement, c'est très intéressant pour les entreprises qui ont déjà un volume de consommation important et des abonnements au-delà de 200 kVA. Ça consiste, lorsque l'on a des pics de consommation d'électricité, souvent l'hiver, hein, quand il fait froid, le réseau, pour éviter de faire du délestage et risquer de faire surchauffer, avoir suffisamment de capacité pour alimenter les clients, va demander à des consommateurs de couper leur consommation pendant quelques heures. Typiquement, une entreprise va accepter dans un contrat signé avec le gestionnaire de RTE, hein, avec le réseau, d'arrêter à la demande de travailler pendant une heure ou deux le matin, au mois de février, à la demande du fournisseur. Et ça, c'est du réseau. C'est très intéressant parce que déjà, ça va donner de la capacité pour justement le chauffage urbain ou d'autres. Et l'entreprise qui accepte ce deal va être payée, va être rémunérée quelques milliers d'euros par mois, toute l'année, pour se mettre à disposition la non-consommation. C'est un peu comme le joueur de foot remplaçant qui est sur le banc de touche. Il va être présent, mais il ne sera pas forcément sollicité. Par contre, vous serez payé pour votre
solidarité,
votre disponibilité à ne pas consommer. Voilà. Donc ça permet à certaines entreprises d'économiser, de récupérer 12 000, 100 000 euros par an.
Et en même temps, dites-moi si je dis une bêtise, quand on voit toutes les discussions sur est-ce qu'il va y avoir des ruptures, pas des ruptures, c'est aussi tous des calculs d'anticipation du niveau d'effacement qui pourrait y avoir et qui permet de faire une certaine forme de délestage volontaire.
Exactement. Oui. Donc c'est en fonction de l'activité de l'entreprise, on va aider les besoins potentiel de délestage, on va étudier pour chaque client leur capacité à ne pas consommer à l'instant T. Et encore une fois, peut-être que l'entreprise ne sera même pas sollicitée pour ne pas consommer. Alors c'est intéressant pour les entreprises qui, par exemple, ont des machines qui consomment beaucoup avec peu de personnel, parce qu'il ne faut pas non plus se retrouver dans le cas où vous avez 50 salariés qui ne travaillent pas pendant 2 heures, mais qu'il faut quand même payer. Donc c'est un équilibre à trouver. Par exemple, des entrepôts frigorifiques peuvent s'arrêter pendant 1 heure de fonctionner, 1 heure ou 2, sans mettre en péril la nature de la marchandise qui est conservée, mais d'économiser justement et de rentrer dans ce cadre de l'effacement. Et ça, on peut accompagner les entreprises pour cette démarche.
Alors, aujourd'hui, je vous ai fait intervenir, vous m'avez fait un audit de toutes mes factures, vous me dites qu'il y a potentiellement des économies à faire. Comment ça se passe? Je résilie, il y a des délais contractuels en règle générale à respecter, c'est des dates d'anniversaire, c'est des fins d'année, c'est vous vous occupez de tout, comment ça se passe?
C'est le vrai sujet en fait, hein, au-delà des conseils qu'on peut apporter, surtout c'est de bien mettre en avant l'anticipation. Et il faut pas attendre d'avoir sa facture qui augmente pour se dire faut que je fasse quelque chose, parce que effectivement il y a des délais. Alors ça dépend des contrats que vous avez signés, mais souvent il y a une période de résiliation, un préavis de résiliation qui peut être de 30 jours, 45 jours, 2 mois, ça dépend des contrats. Sur des contrats qui auraient été signés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et souvent, ils sont assortis d'une tacite reconduction. Donc, si vous ne faites rien, votre contrat va être renouvelé de façon tacite sur une période équivalente ou inférieure, mais en tout cas avec un nouveau prix. Et le prix correspondra au nouveau prix du marché. Et là, ça peut faire très mal si vous ne prenez pas le temps de le négocier. Voilà, à peu près les... Donc, nous, on va accompagner le client, on va lui expliquer, attention, il faut résilier avant telle date, donc il faut qu'on fasse l'étude suffisamment tôt pour prendre une décision. Peut-être que votre fournisseur actuel est meilleur. S'il est meilleur, on ne change rien. Mais si on trouve des solutions plus intéressantes, à ce moment-là, il faudra déjà prendre une décision en amont, et puis on vous aidera pour faire la résiliation, et on enregistrera vos nouvelles commandes auprès du fournisseur retenu.
D'accord. Quand j'ai préparé l'émission, sur le site de Place des Énergies, vous indiquez pouvoir accompagner vos clients dans le montage de dossiers rentrant dans le dispositif CE, Certificat d'économie d'énergie. Qui est concerné? En quoi ça consiste?
Oui, alors nous, on est principalement orienté sur, dans le cadre du décret tertiaire, hein, les entreprises
qui ont mètres carrés, c'est ça,
plus de 1000 mètres carrés d'activité tertiaire, qui doivent, d'ici 2030, réduire leur consommation de 40% par rapport à 2010. Donc déjà, vous comprenez qu'il y a un dossier à monter entre qu'est-ce que je consommais en 2010 et comment arriver à 40% d'économie. Et dans ce cadre-là, vous savez, les fournisseurs d'énergie, eux, ont des pénalités importantes parce qu'ils sont pollueurs, hein, et donc le pollueur-payeur. Et donc, pour payer moins, ils peuvent acheter des certificats d'économie d'énergie qui vont être utilisés, qui vont financer des travaux. Dans le cadre du... Alors, c'était pour le particulier, on en a beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, on parle surtout du décret tertiaire. Et ces aides vont permettre aux entreprises ou aux propriétaires d'effectuer des travaux qui vont être financés en partie ou totalement par ces certificats d'économie d'énergie émis par des organismes certifiés. Donc tout ça, c'est un petit peu administratif complexe.
Pour être sûr que j'ai bien compris, donc je suis une entreprise, je passe par tel opérateur, vous aidez l'entreprise en question à monter un dossier qui va retourner vers l'opérateur pour que dans le cadre des CE,
c'est pas l'opérateur,
va vous aider à financer des travaux.
Ouais. C'est pas tout à fait l'opérateur. Enfin, si vous entendez l'opérateur fournisseur, peut-être.
Oui,
fournisseur. Non, c'est pas le fournisseur qui va gérer. Il va pas du tout rentrer en ligne de compte. C'est beaucoup plus global en fait. Mais nous, on va gérer justement le dossier pour voir à quoi le client a le droit, les travaux qu'il pourra faire et qu'il devra faire, et le financement de ces travaux. Voilà. Et après, on pourra l'accompagner auprès de partenaires pour justement effectuer également les travaux.
Merci Eric Fouillet. J'ai ma dernière question habituelle. Votre plus belle réussite, maintenant qu'on a vu comment vous pouvez aider les entreprises, les particuliers, j'aimerais connaître quelle est votre plus belle réussite.
Alors, une réussite, je ne sais pas, en tout cas une satisfaction, ça se répète en ce moment. Des TPE qui viennent vers moi en me disant, voilà, j'ai signé un contrat avec pour 2 ans, 3 ans, à des prix, je ne me suis pas rendu compte, mais à 400-500 euros le mégawattheure. Je ne sais pas quoi faire, je pense que je vais fermer ma boucherie, je pense que je vais fermer ma chocolaterie avant la fin de l'année. Et on cherche des solutions et on se rend compte qu'avec, en adaptant leur abonnement, ils rentrent dans le cadre du tarif réglementé de vente, qui est une aide, un prix cadré par le gouvernement qui est bas et qui permet de résilier sans pénalité de résiliation anticipée. Et on a pu réduire des factures, des budgets annuels de 28 000 euros dans une boucherie, par exemple, à laquelle je pense, à 4 000 euros par an. Et du coup, on donne beaucoup plus de sérénité à l'entrepreneur. Et ça, c'est des satisfactions personnelles de dire, bon, j'ai quand même un rôle social qui va aider les entreprises à se sortir de ce pétrin. Voilà. Donc ça, c'est une satisfaction personnelle. Voilà.
Donc il faut que tous les boulangers viennent vous voir.
Oui, avec plaisir. Bon, ils sont souvent beaucoup, ils ont des puissances importantes. Et il y a des aides aujourd'hui pour les boulangers.
Mais oui, on a vu récemment, visiblement, c'était le métier le plus concerné ou atteint, ou en tout cas celui qui communique le plus.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides, enfin, il y a pas mal d'aides. Ceci dit, les aides, c'est toujours proportionnel. Donc, plus vous payez cher, plus vos aides seront importantes, mais malgré tout, votre facture sera importante. Donc, pensez à négocier bien en amont et anticiper sur la fin de votre contrat. Voilà, c'est le message que je veux transmettre, c'est surtout anticiper et faites-vous aider si besoin.
Merci Eric Fouillet. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause.
Mets ta voile, on décolle à la nage à l'envers, car la vie a ses couleurs. Et c'est en se lassant qu'on les perd. À mon âge, on est folle quand on nage en hiver et sans drapeau tricolore. Mais si j'attends qu'on m'enferme, c'est très beau, mais ça manque de corps. C'est très haut, mais ça manque de force. Déracine-moi, je n'ai pas. Car c'est en marchant qu'on se perd. En hommage aux étoiles, on les mange à l'aurore, car la vie a ses couleurs. Et ces instants, oui, ces instants font l'affaire. À la longue, on se dit qu'on n'est jamais dehors, qu'on est plus vivant quand on dort. Alors on sait bien ce qu'on doit faire. Un oiseau sait toujours où c'est le nord. Et moi j'appuie toujours où c'est le cœur. Fais-moi une chanson avec ton corps. Et après j'attends, promis, j'attends qu'on m'enferme. Ay no quiero, no puedo, no debo vivir una vida sin color. Por si acaso, por si hay algo voy a ver. Ay, no quiero, no puedo, no debo vivir una vida sin color. Por si acaso, por si hay algo voy a ver. Ay, carnaval, ¿pa' dónde está el norte? Ay, carnaval, ¿pa' dónde está el sur? Ay, carnaval, ¿dónde está la quiero que me lleve. Marche encore, marche encore, marche encore. Hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Porque nos accents, oui, nos accents font la paire. Et si j'attends, si j'attends qu'on m'enferme. Por si acaso, por si hay algo voy a ver.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Merci d'être avec nous. Nous attaquons la dernière ligne droite de cette émission avec Audrey Anthony d'Ergoneo, Éric Fouillet de Place des Énergies et Franck Bonacera de Sisax Group. Donc, maintenant, c'est à vous, Franck.
Merci, Paul.
Je vous ai gardé pour la fin, pour le meilleur. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sisax Group et vous présenter?
Oui. Pour ma part, donc je m'appelle Franck, j'ai 54 ans. J'ai été entrepreneur en 2010 lorsque j'ai repris la première société d'usinage et la deuxième en 2019. Sisax Group, c'est un pôle de sous-traitance industrielle, donc qui comporte deux entreprises. Une qui est spécialisée en usinage, donc mécanique de précision et usinage de forme. Et CSI qui est une chaudronnerie, serrerie industrielle où à la fois on fait de la production en interne et à la fois nous avons des équipes qui vont installer sur les chantiers de nos clients tout ce que l'on fabrique, qui peut être des escaliers, des portes, des garde-corps, peu importe.
Alors, moi, je m'interroge toujours sur le nom des sociétés. Donc, j'ai essayé d'imaginer Sisax, j'ai dit système axial. C'est une bêtise totale. Alors, c'est ça l'origine.
C'est pas forcément une bêtise sociale. On a fait un petit brainstorming avec les trois dirigeants d'entreprise. On est arrivé à ça. Il y a beaucoup d'inconscient dedans et ça peut en faire partir.
Parce que c'est toujours révélateur quand on a un nom, de se dire comment on est arrivé à ce nom-là. Et finalement, on raisonne aussi par rapport à ses clients. Il faut que ça évoque quelque chose par rapport à son métier, par rapport à ses clients. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de voir la démarche qui ont abouti à un nom.
Ça peut évoquer les axes d'usinage.
Parce que aujourd'hui, donc vous avez Sisax Group et deux entités juridiques qui ont des noms différents. Hein.
Alors Sisax Group, c'est une marque en fait. On a deux entités juridiques, c'est-à-dire que Sisax Group, lorsque je vais voir un prospect, ça me permet de cumuler la chaîne de valeur qui va de l'usinage, donc mécanique de précision, encore une fois, usinage de forme, découpe, roulage, etc. Et puis installation sur site. Après, en fonction du besoin des clients, ça va sur l'une ou sur l'autre des entreprises.
D'accord, donc ça veut dire que, et c'est finalement la manière dont vous vous présentez, qu'il y a un pôle de sous-traitance, donc de ce fait, vous avez des services supports qui sont communs aux différentes sociétés et qui permet de faire tout le diagnostic et de répondre aux clients techniquement avant de passer dans le concret, c'est ça?
C'est complètement ça, effectivement. Nous avons, par exemple, dans la chaudonnerie, un bureau d'études pour la conception de chariots ou de passerelles ou peu importe. Et lorsqu'il y a besoin de pièces d'usinage, effectivement, les deux sociétés travaillent ensemble.
Mais par contre, le client n'a qu'un seul interlocuteur, c'est ça?
Le client n'a qu'un seul interlocuteur, tout à fait.
Donc effectivement, ça, d'un seul coup, ça augmente la palette de la proposition commerciale que vous pouvez faire à vos clients.
C'est complètement ça, ça augmente cette palette. Et puis en plus, on ne fait pas de marge sur d'éventuelles sous-traitances, puisque lorsqu'en chaudonnerie, on a besoin de pièces d'usinage, la chaudonnerie ne va pas prendre une marge sur l'usinage. On a tout cet outil de production autour de nous, on produit directement pour le client.
Alors, de ce fait, on arrive à la deuxième question, c'est quels sont vos clients?
Alors, les clients sont multiples. On travaille, par exemple, en usinage, par exemple, on travaille pour l'aéronautique, par exemple pour Thales, on travaille pour l'automobile, on travaille pour le luxe. Comme on usine aussi de la forme, on travaille pour des plasturgistes, en thermoformage, où on fait des moules, pour l'automobile, où on peut usiner des portières et autres. Et concernant la chaudronnerie, la métallerie, surtout des grands industriels, je vais citer Eiffage, SNCF, des grosses sociétés comme ça, parce que notre bureau d'études conçoit et réalise donc ce dont ils ont besoin. Ça peut aller de chariots pour l'automobile, donc ça on réalise et on livre, ou ça peut être des garde-corps, tout ce qui est en fer en fait, d'une façon générale. Et une fois que les plans sont validés et que c'est réalisé chez nous, ce sont nos équipes chantier qui vont spécialement les installer chez nos clients.
Donc, en dehors de ces grands donneurs d'ordre, vos clients sont plutôt valdoisiens, toute
plutôt
France.
Île-de-France. Plutôt Île-de-France, oui, tout à fait.
Île-de-France. Quels sont vos plus? Parce que je pense que vous, comme tout le monde, vous devez avoir des concurrents. Donc aujourd'hui, les plus de Sysax Group.
Alors les plus, ou plutôt nos facteurs différenciants. En fait, on est vraiment dans le sur-mesure au niveau de la chaudonnerie. On fait du sur-mesure. Voilà, on n'a pas de produits à nous, de produits standards. On fait vraiment du sur-mesure. Et je dirais le vrai plus, c'est le cumul de cette chaîne de valeur qui est voilà découpe, usinage, pliage, assemblage, installation. On cumule vraiment toute cette chaîne de valeur qui fait qu'on est un pôle de sous-traitance industrielle et qu'on prend en charge les installations de A à Z.
Vous avez une question, André ?
Oui, je serais curieuse de connaître votre formation.
Alors là, ça va être très très compliqué et surtout très sinueux parce que moi j'étais dans les sports et loisirs au début, donc j'ai pas forcément de formation. Ensuite, après l'armée, j'étais chasseur alpin, je voulais quitter les montagnes et j'ai fait donc 5 années commerciales dans la plasturgie. Après, j'ai compris que pour réussir, il fallait avoir des diplômes, donc j'ai fait l'Institut français de gestion. Ensuite, 12 années directeur commercial dans l'ingénierie audiovisuelle pour la réalisation de différentes salles. Et puis, à un moment donné, je tournais un petit peu en rond. Donc, avec un ami, on est allé faire un MBA à Reims, donc Neoma. Après le MBA, j'ai fait 3 années en cabinet conseil en management, en tant que directeur de clientèle. Et un jour, j'avais un ami à moi qui s'était fait licencier parce que sa boîte avait fermé dans l'usinage. Et puis, je lui ai dit, si toi, t'as un métier dans les mains, moi, j'ai ce qu'il y a autour. Et nous avons repris ARM, qui en 2010 faisait 200 000 euros. Et en 2020, avant Covid, on faisait quasiment 1 million d'euros. Et voilà comment ça s'est fait.
Bravo.
C'est une belle histoire.
C'est une histoire sinueuse et ouais, belle histoire.
Finir sur une reprise et rendre dynamique la structure reprise, c'est une très belle histoire. La période Covid a été compliquée pour Sysax Group.
Elle a été compliquée et puis elle est surtout après, comme pour beaucoup de petites entreprises, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait 2 solutions. Nous, on n'a pas de nombreux salariés, on peut pas mettre une équipe communication, une équipe commerciale au chômage technique pour essayer de faire des économies, etc. On n'a que des gens de production, donc à partir de là, soit ils venaient pas et on perdait tous nos clients, soit ils venaient et du fait de la faible activité, on travaillait à perte. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, aujourd'hui, comme toutes les sociétés, on doit rembourser les PGE et les décalages URSSAF. Et du coup, tous les résultats qu'on fait aujourd'hui ne vont peu dans les investissements et plus dans les remboursements.
Oui, donc ça veut dire potentiellement... Le problème n'est pas aujourd'hui, le problème est le vieillissement de l'outil industriel qui fait que pour donner la priorité effectivement et respecter les échéances que vous pouvez avoir, vous êtes obligé de décaler des investissements. Donc c'est une perte quelque part en compétitivité.
Oui, on peut voir ça comme ça. On avait beaucoup investi avant, que ce soit dans des fraiseuses, des tours, ou que ce soit dans une découpe plasma ou dans des tableaux d'assemblage. Donc on l'avait fait, mais c'est vrai qu'on risque de faire 18 mois à 2 ans là où on va plutôt rembourser que d'investir beaucoup, beaucoup. Maintenant, on a quand même des petits projets d'investissement, mais par rapport à l'ambition qu'on avait avant 2020, on freine un petit peu, forcément, on joue la sécurité.
Je vais vous poser maintenant une question par rapport à votre bâtiment. Donc, vous avez prévu de déménager.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce que là aussi, tout déménagement implique investissement.
Bien oui, comme dans tout ce que l'on fait avec mes associés, on essaie d'avoir une vision, qui sera la nôtre, mais pour arriver à quelque chose. Et cette vision, on s'était dit, du fait qu'on a de l'usinage, qu'on a de la chaudonnerie, qu'on veut faire un pôle de sous-traitance industrielle, la plus belle chose, la plus belle façon de matérialiser, c'est de mettre ces deux entreprises dans un écrin, c'est-à-dire un bâtiment industriel, donc qui pour le coup se fera à Jouy-Moutier, ou même si les entreprises resteront juridiquement indépendantes, encore une fois, le client aura toute sa chaîne de valeur sur place pour réaliser ses projets.
D'accord. Et dans ce cadre-là, vous m'avez expliqué que le bâtiment avait été réalisé en collaboration avec la région et France Relance. Vous pouvez nous expliquer un peu le parcours. Votre parcours à vous, le parcours du bâtiment.
Ah ben il a été tout aussi sinueux et ça a été aussi un conte de fées. C'est-à-dire que avant 2020, les banques nous ont dit oui, beau projet, on y va. Et au moment où il fallait signer, ça a été le Covid. On n'a plus entendu personne. Et puis après, ça a été non. Sauf qu'on avait déjà le permis de construire, le terrain, et qu'on avait déjà fait des investissements, des charges. Pour le coup, à un moment donné, on s'est battu, ils sont revenus en disant oui, sous forme de leasing, et puis il y avait des cautions à mettre sur 4 générations, donc là c'est nous qui avons tout abandonné. Et un jour la région est venue vers nous en nous disant: écoutez, nous on est capable de reprendre votre bâtiment, parce que votre projet, qu'il soit projet professionnel, industriel, sociétal et autres, visiblement nous convient, enfin leur convenait, et du coup ils prennent en charge complètement la création et la fabrication de ce bâtiment. Donc on est en contact avec eux depuis maintenant plus de 6 mois, et là on est au stade des appels d'offres qui vont partir, et le bâtiment devrait sortir de terre à partir d'avril 2023 pour une entrée en mai 2024.
Et là, entre la région et France Relance, c'est les mêmes interlocuteurs, c'est des interlocuteurs différents que pour bien comprendre comment.
Alors France Relance, moi j'ai pas vu du tout les interlocuteurs. En revanche,
donc c'est la région,
c'est une société d'économie mixte. Donc non, d'accord. Je pense que ce sont pas les mêmes interlocuteurs. Comme c'est eux qui sont venus vers moi, je ne connais pas tous les rouages et toutes les sociétés de la région. Mais pour le coup, ils sont venus vraiment pour nous accompagner dans cette démarche. Le bâtiment qu'ils souhaitent réaliser, nous, on sent bien qu'ils le font pour nous. Et pour nous, c'est magique, parce que du coup, en 2024, nous rentrons dans un bâtiment qui sera aux normes acoustiques, aux normes énergétiques, à tout ce qui correspond aux normes. Et en plus, nous permettra d'avoir de la surface en plus, parce que nous sommes limités aujourd'hui en termes de surface et en termes de croissance. Or, aujourd'hui, la croissance est là, donc il faut qu'on l'accompagne.
Nous allons marquer une dernière pause, et après, c'est une très bonne transition. Nous allons parler RSE.
Mal, reprends-toi un peu, pleurer c'est sale, ça fait des yeux plus gros que la ville, qu'est-ce qu'on y peut, c'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes, pour avoir l'air normal. Moins 1 000 mots, 1 million, une piscine, une saison de larmes. Depuis qu'on m'a dit de garder la face, tous les mercredis je m'entraîne dans la glace, j'ai retenu mes larmes. Combien de fois pour avoir l'air normal,
dernière ligne droite avec Audrey Anthony qui me seconde parfaitement. D'Ergonéo, merci Audrey, Éric Fouillet de Place des Énergies et Franck Bonacera de Sysax Group. Donc Franck, sur le bâtiment, vous nous disiez qu'il avait, il était en conformité et donc c'était le bâtiment de demain par rapport à ce que vous pouvez disposer aujourd'hui.
Absolument.
Donc il était complètement adapté. Donc ça nous faisait une magnifique transition sur tout ce qui était RSE, donc responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus puisque vous êtes aussi impliqué et l'entreprise est engagée sur ce
oui,
en matière de RSE.
Donc ça, je pense que c'est plus une histoire d'homme, une histoire de dirigeant. Dès le début où nous avons repris ARM, nous avons souhaité avoir une empreinte territoriale, faire quelque chose. Voilà, pour accompagner. Donc ça a commencé par de sponsoriser des clubs. À Jouy-Moutier, par exemple, nous avons sponsorisé le club de basket. Et puis petit à petit, en connaissant les gérants et les réseaux, et bien aujourd'hui je suis donc vice-président de la Fondation FAS, donc Fondation Agir contre l'exclusion, et puis au conseil d'administration.
Dont les missions sont
Dont les missions sont d'accompagner les personnes qui en ont besoin, soit dans les écoles où nous faisons des interventions pour promouvoir l'industrie, pour promouvoir l'égalité homme-femme, pour promouvoir l'alternance, enfin pour enlever tous les clichés historiques du monde industriel et montrer ce que c'est aujourd'hui, puis présenter aussi les métiers aux étudiants qui ne le savent pas, enfin au collège et au lycée ils ne les connaissent pas, et puis aussi tout ce qui touche le retour à l'emploi avec les matchs pour l'emploi, avec le parrainage, marrainage, avec le mentorat.
Donc je vous avais interrompu, donc il y avait l'association FAS,
voilà.
Et vous disiez que vous étiez au conseil d'administration de
la FAF, donc l'association de formation des ouvriers de la région parisienne, puisque pour le coup ils feront des formations en usinage et en chaudonnerie, et ça correspond à mon métier, donc je trouvais ça intéressant d'y participer.
D'accord, donc ça correspond aussi à tout le côté, un, formation, deux, indirectement, peut-être que vous prenez des alternants qui viennent de la forme
Pas spécialement. Quand j'ai un rôle sociétal, que ce soit à FAS ou autre, c'est moi qui donne. Mmh. Et après, tout ce qui est recrutement
mais,
et autres...
En même temps, prendre des jeunes en alternance, c'est quelque part donner aussi.
C'est vrai aussi.
Et c'est ce que j'appelle du gagnant-gagnant.
C'est vrai aussi, mais non, là, pour le moment, ça s'est fait par le réseau, surtout les alternants. Et pourquoi pas, mais enfin voilà, aujourd'hui, on s'en est pas servi.
Parce qu'on a vu l'alternance qui a complètement explosé ces dernières années.
Nous, on en fait depuis longtemps et depuis ARM, depuis 2010, l'alternance, on a dû commencer en 2013 et on a toujours eu des alternances chez ARM et aujourd'hui chez CSI, donc dans l'ensemble du groupe Sysax.
D'accord. J'ai vu aussi que vous participiez au trophée Enterprise de Generali. En quoi ça consiste?
Alors effectivement, c'est mon cabinet de courtage en assurance qui est venu vers moi en disant que Generali faisait un concours national sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons postulé sur la partie territoriale. Donc nous avons présenté ce que nous faisons, comme on vient de le faire aujourd'hui, enfin à l'instant là, sur la partie Fondation FAS, sur la participation au GIEC sur Sergi Pontoise et autres, de ce que l'on fait aussi dans l'entreprise. Nous, tous nos salaires sont calés sur la moyenne du GIM, donc il n'y a pas de...
Le GIM, c'est
Groupement des industries de la métallurgie de l'Île-de-France, ce qui fait qu'il n'y a pas de perdants. D'autre part, nous mettons un intéressement de façon très simple et très transparente. Si le résultat est égal à 3% ou supérieur du chiffre d'affaires, il y a 20% du résultat qui est redistribué aux salariés, et nous avons mis en place tout ce qui est plan d'épargne d'entreprise pour qu'ils puissent à leur convenance soit le prendre ou soit le placer pendant 5 ans. Donc on essaye de se positionner sur différentes possibilités pour avoir une empreinte sociétale territoriale. Et pour le coup, nous sommes arrivés deuxième au niveau national. Hein, donc pour une toute petite société, ça fait plaisir.
Bravo pour ce résultat. Vos enjeux pour 2023, puisqu'on est en début d'année, donc l'année va être longue.
Ouais, l'année va être longue. Pour le moment, l'activité est là. En fait, tout tourne autour du bâtiment. C'est-à-dire que les enjeux, petit un, c'est de bien concevoir ce bâtiment et surtout concevoir l'implantation des machines pour tout ce qui est gestion des flux, flux humains, flux d'informations, flux des matériaux. Le deuxième, on est en train aujourd'hui de recruter, mais principalement pour composer nos équipes. C'est-à-dire que au-delà du travail au quotidien, nous avons des seniors qui sont là aussi pour apprendre le métier aux juniors. Donc tout ça, on est en train de mettre en place les équipes afin de pouvoir, dès 2024, les positionner dans le nouveau bâtiment et pour le coup, continuer tous les process qu'on met en place. Voilà, tout tourne autour de ce bâtiment et de la façon dont on va y arriver.
Donc, une belle année, j'allais dire relativement sereine parce que les carnets de commandes sont pleins avec
pour le
des
coup,
bons
les carnets
projets
de commandes sont pleins, oui,
donc tourner totalement vers l'avenir.
Tourner vers l'avenir et bien sûr on continue tout ce qui est formation, on continue formation sécurité, formation métier, tout ça voilà, on continue ça.
Alors ma dernière question comme aux deux autres, votre plus belle réussite?
Bah, je crois qu'il y a plus belle réussite ou, comme le disait Eric, il y a plus belle satisfaction, c'est les différentes empreintes qu'on peut laisser. Moi, j'étais pas parti à la base pour être entrepreneur et d'arriver à laisser une empreinte d'entrepreneur, à laisser une empreinte dans les réseaux sociétaux, à laisser une empreinte dans les écoles lorsque je vais dans les écoles. C'est tout ça qui font que finalement, on a le sentiment d'avoir à peu près réussi sa vie professionnelle, quoi. En tout cas, on peut en être un peu fier.
Merci Franck. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir partagé votre actualité et d'avoir présenté vos sociétés. Est-ce que vous souhaitez en une minute dire un petit dernier mot de conclusion?
Bah pour ma part, je vais remercier Eric pour sa présentation sur tout ce qui est énergie parce que je crois que c'est vraiment le sujet du jour.
Oui, merci. En effet, oui, moi aussi, c'était très agréable de passer ce moment avec vous, très enrichissant. Et puis, surtout, voilà, de dire à nos auditeurs d'anticiper sur et de vérifier leur facture d'énergie. C'est vraiment le message que je veux transmettre. Il faut pas faire la politique de l'autruche, mais bien regarder en face ce qui arrive pour prendre des initiatives salvatrices.
Voilà. Et Audrey?
Oui, merci Paul et merci IDFM de nous avoir mis en contact avec des super entrepreneurs.
Surtout que le recrutement aujourd'hui, c'est primordial.
Donc si on doit retenir un mot, c'est prévoir, anticiper et voir loin.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Donc merci à tous les trois. Merci à Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous suivez pour votre fidélité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une émission que vous pourrez retrouver à tout moment avec son podcast sur idfm98.fr. N'oubliez pas que le mardi et le vendredi, l'économie en direct, c'est Jacqueline Voraz. Donc à très vite et à très vite sur l'économie en direct. Au revoir à tous.